pour que les élèves puissent, puissent être au courant, être informés vraiment de la faïda de cette matière, pourquoi on utilise, pourquoi on étudie, pardon, le fiqh, l'importance d'étudier le fiqh. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là ou autres, revenez à ce cours qu'on a fait. On a fait un rappel exclusif sur l'importance, hein, d'étudier le fiqh. Et vous comprendrez, vous verrez qu'on n'a pas mis cette matière en matière principale avec le tawhid et le comportement pour rien. Pour rien. On ne peut pas adorer Allah Ta'ala correctement comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a demandé si on n'étudie pas le fiqh. Et on ne sera pas capable également d'expliquer une question religieuse comme il se doit si on n'a pas étudié le fiqh. Et wallahi, même nous aujourd'hui, sur des questions religieuses, certaines fois, ça nous arrive d'avoir une position. On pensait connaître entièrement la question religieuse et hop, on apprend des choses en plus qu'on ne connaissait pas sur une question religieuse. Subhanallah. Subhanallah. Je vais vous donner un exemple comme concernant le chien. Concernant le chien, la najasat al-kelb, c'est-à-dire la l'impureté, pardon, du chien. Tout le monde connaît, tout le monde sait que ce qui est le plus connu, que ce qui est le plus connu concernant l'impureté du chien, c'est que il n'y a que la bouche qui est impure. Tout le reste du corps, on peut caresser le chien, il n'y a aucun souci avec le chien. Mais c'est ce qui est le plus répandu, mais malheureusement, ce qui est le plus répandu, ce n'est pas forcément le plus juste. Excusez-moi. Pourquoi? Parce qu'il y a la majorité des savants qui disent que le chien tout entier est une impureté. Le chien tout entier. Donc voilà, c'était un exemple que je vous donne. Des fois, on pense connaître une mas'ala, une question religieuse, et il y a des détails et des détails. Voilà, qu'on ne connaît pas. Donc c'est pour ça qu'il faut, si on veut parler sur une question religieuse, il faut vraiment maîtriser tous les paramètres et connaître tous les détails de cette question. Tous les détails de cette question. Wallahu a'lam. Parce que sinon, on peut induire une personne en erreur. Dans le cours précédent, on s'était arrêté concernant concernant masadir al-tashri'a, c'est-à-dire les sources de la législation à l'époque des compagnons. Comment se comportaient les compagnons par rapport au jugement, à la législation? On avait expliqué dans le cours précédent, on avait expliqué que les compagnons, au moment où ils ne trouvaient pas de preuves concernant une question religieuse, ils ne trouvaient pas de preuves dans le Kitab ou dans la Sunna, ils ne connaissaient pas de preuves, ils recouraient à ce qu'on appelle au ijtihad. On avait dit également, je ne sais pas si on l'a dit, mais si on ne l'a pas dit, on le dira, inshallah ou ta'ala, que les compagnons du prophète et surtout Khulafa ar-Rashidin, c'est-à-dire les quatre, ceux qui ont suivi les califes bien guidés, le prophète, alayhi salatu wassalam, leur tradition, c'était de réunir les gens et de chercher chez les gens s'il n'y avait pas des gens qui avaient une information du prophète alayhi salatu wassalam sur telle question religieuse. Et s'il y avait une information avérée sur une question religieuse, ben il prenait. Après qu'elle fût vérifiée, il prenait. Il réunissait les gens parmi les compagnons, etc. Avez-vous entendu quelque chose du prophète sur telle et telle question religieuse? On appelle ça la mouchawara, qui est la consultation. La consultation. Donc on nous dit, les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, fournissaient des efforts concernant ce qui était descendu du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'ils ne trouvaient rien dans le kitab wa sunna, ils passaient donc au ijtihad. Alors attention, attention, on va être un peu plus précis concernant le ijtihad. Le ijtihad, c'est pas tiens, je vais réfléchir dans ma tête, qu'est-ce que je pourrais dire. C'est pas ça. Le ijtihad, c'est pas ça. Comprenez bien. On va donner plus de détails. On nous dit, il passait au ijtihad, donc l'effort d'interprétation, l'effort pour émettre les jugements. Donc il passait au ijtihad à la lumière. Écoutez bien, hein, ça fait toute la différence. À la lumière des règles légiférées et de leurs textes. Alors, comme vous le savez, dans le fiqh, dans usul fiqh, il y a des règles. Hein, il y a des règles. C'est à partir de ces règles qu'on tire les jugements. Ça, maintenant, tout le monde connaît ça. Plus ceux qui font du usul fiqh, ils ont plus de connaissances, c'est plus approfondi. Mais même ceux qui font du fiqh, hein, on a expliqué que il y avait des règles dans le fiqh, dans usul fiqh. C'est pas comme ça qu'on émet des jugements. Il y a des règles. Donc les compagnons du prophète. Plutôt, hein, plus précisément, les Khulafa ar-Rashidoun, radiallahu anhum, donc les quatre califes, hein, les califes bien guidés, recouraient, ils se concertaient, et ils concertaient aussi les gens du ijtihad, du point de vue du fiqh, naham. Et lorsque leurs paroles se réunissaient, c'est-à-dire au moment où leurs paroles, elles étaient unanimes, il y avait l'unanimité, alors ils jugeaient par celle-ci. Ils jugeaient par cette parole. Afwan. Naam. Wa min dhalika ma dhakara Umaymoun ibn Mihran qala kana Abu Bakr رضي الله عنه إذا ورد عليه الخصم نظر في كتاب الله. Alors on nous dit, comme cela a été mentionné. Maintenant on va ramener le dalil de ce qu'on vient de dire. Comme cela a été mentionné. Que Maymoun ibn Mihran a dit. Donc lorsque vous entendez des noms comme ça, ce sont des salafs. Des salafs, des tabi'in, des compagnons. Hein. Vous inquiétez pas, c'est pas n'importe qui comme ça qui sort de nulle part. Kana Abu Bakrin. Donc Abu Bakr, radiallahu anhu, lorsque il y avait un genre de divergence, un genre de débat, de comme dispute, mais c'est pas la dispute celle qu'on connaît, hein. On va dire divergence. Il regardait dans le livre d'Allah. S'il trouvait ce qu'il cherche dans le livre d'Allah, il jugeait par celui-ci. Si il ne trouvait pas dans le livre d'Allah le Coran, il cherchait dans la sunna du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. S'il trouvait, il portait son jugement par rapport à la sunna. S'il ne trouvait pas dans le Kitabi wa Sunna, comme on vous a dit au début du cours, il sortait et il demandait aux musulmans. Il sortait et il demandait aux musulmans. Alors Abu Bakr, radiallahu anhu, il disait, dans ces termes, hein, il m'est parvenu ceci et cela. Donc là, on parle d'une question religieuse. Hein. Il m'est parvenu ceci et cela. Est-ce que, donc il interroge les gens, les musulmans, hein, parce que des fois, il y a des gens qui ont côtoyé le prophète, et il y a eu une situation particulière qui fait que, il y a des compagnons qui sont venus, et le prophète, il leur avait dit une chose que à eux. C'est comme ça. Il y a des situations comme ça où il y a des compagnons, ils disent, le prophète m'a informé de ça, il a été le seul qui... Non. Donc, Abu Bakr, il venait, il disait, Abu Bakr, radiallahu anhu, venait et disait, il m'est parvenu ceci et cela. Connaissez-vous quelque chose du messager? Sallallahu alayhi wa sallam. Si les gens parmi les compagnons, les musulmans de l'époque, l'informaient, ils jugeaient par cela. Taïb. Donc c'est une consultation, c'est une concertation, mais Abou Bakar, comme on nous dit ici, il fallait que tous les musulmans, c'est-à-dire tous les compagnons, soient d'accord sur ça pour qu'ils jugent de cela. ومما يجدر تنبيه إليه أن الصحابة رضي الله عنهم لما كانوا يمارسون الاجتهاد بالرأي لم يطلقوا أو لم يطلقوا على أضراب الاجتهاد مصطلحاته الأصولية التي عرفت فيما بعد كالاستحسان والمصالح المرسلة والقياس بأنواعه وسد الذرائع وهموم البلوغ وعموم البلوغ ونحوها تمام. Donc, regardez, hein. Ça c'est une mas'ala, c'est une question très importante. J'ai oublié si on en a parlé précédemment ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, retenez bien, c'est très important. C'est fondamental. On nous dit que concernant les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète, alayhi salat wa salam, ils procédaient au ijtihad. On est bien d'accord sur ça. Mais il faut savoir que le ijtihad des compagnons, c'est pas avec exactitude le ijtihad, celui qui est venu après eux et celui qu'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des ouvrages avec des livres, des savants qui ont instauré des règles, etc. Aujourd'hui, ceux qui font le ijtihad, il y a des règles qui ont été instaurées, il y a des savants, il y a des livres, etc. Il y a toute une tariqa pour atteindre le niveau du ijtihad. Il faut savoir que les compagnons, ils ont le plus haut niveau de degré de science de ijtihad. Mais alors comment? Alors on va vous apprendre cette mas'ala sous forme de questions. Je sais que c'est un peu technique, mais c'est pas grave, peut-être que certains arriveront à répondre, et si vous n'arrivez pas à répondre, inch'Allah, on donnera la réponse. À partir du moment où les compagnons, ils ne procédaient pas de la même manière. Concernant le ijtihad, il ne procédait pas de la même manière parce qu'il n'y avait pas les livres comme aujourd'hui avec les règles de jurisprudence, de fiqh. La matière de usul fiqh, elle n'existait pas. On est bien d'accord. Alors comment ils faisaient les compagnons? Comment faisait-il? On a une première réponse qui nous dit Salam alaikum, il faisait jurer avec témoin. Ça, barakallahu fik, c'est dans un autre contexte. C'est dans un autre contexte, mais oui, c'est. On a parlé de ça. Mais ici, nous ne faisons pas allusion à cela. Ça ressemble plus à du qiyas, non? On peut dire ça, mais c'est toujours pas ça la réponse. C'est toujours pas ça la réponse. Alors, il y a un frère qui nous donne une réponse ici, qui nous dit, Mashallah. Salam alaikum, oustaz. Pourrais-je donner une réponse? Bien sûr. Bien sûr, Abdelkalim, tfaddal. En tout cas, il y a le frère Mbaye qui a répondu. Et qui a bien répondu. Les compagnons, ils s'appuyaient sur le livre d'Allah et la sunna. Ils s'appuyaient sur le livre d'Allah et la sunna. Écoutez, barakallahu fikum. Écoutez la réponse. En tout cas, barakallahu fikum pour ceux qui ont participé. Ils prenaient quand même l'unanimité alors que maintenant c'est un ijtihad personnel. Oui, déjà, oui, c'est un fait. C'est un fait. Mais regardez la réponse entière à 100%. Prière de consultation, non. Écoutez. Regardez. On sait que après les compagnons, que ce soit les savants, que ce soit. Inch'Allah, on va répéter la question et on va donner la réponse, Inch'Allah, au Ta'ala. La question, c'est. On sait que les compagnons procédaient au ijtihad. Pardon, ils procédaient également à l'analogie. Et comme nous l'ont si bien rappelé les étudiantes, et on sait que ils procédaient également à l'unanimité. Ils tenaient compte de l'unanimité. Donc tout ça, c'est du usulul fiqh. Ce sont des règles pour juger du ijtihad. Mais le problème, et c'est là qu'on vous pose la question, c'est qu'à l'époque des compagnons, il n'y avait pas le usul al-firqa, comme on le connaît nous aujourd'hui. Les ouvrages, les savants qui ont fait des ouvrages, les savants qui ont fait des règles, ce sont eux qui ont fait les règles. Alors comment les compagnons faisaient du ijtihad, ils faisaient des fatwas, ils faisaient. Comment ils faisaient? Réponse. Réponse. Les compagnons, tout ce qui est règles d'usul fiqh, règles de jurisprudence, tout ce qui est ce qu'on connaît aujourd'hui, c'était inné chez eux. Comme ils maîtrisaient le Coran et la Sunna, ils n'avaient pas besoin des règles. Les règles, elles étaient déjà, ils avaient déjà tout ça. Je vous donne un exemple. Est-ce que les compagnons à l'époque du prophète, c'est un exemple pour que vous compreniez mieux. Est-ce que les compagnons à l'époque du prophète, on leur a fait des cours de ajurumiyya dans la langue arabe, on leur a fait des cours de langue arabe, il fallait qu'ils étudient des livres de langue arabe avec des règles dans la langue arabe? Pas du tout. Alors comment ils ont fait pour comprendre le Coran? Comment ont-ils fait pour comprendre le Coran et la Sunna? Eh bien parce que ça, ils l'avaient déjà, ils maîtrisaient, ils avaient tellement un haut niveau que toutes les règles, ils les avaient déjà dans la tête. Est-ce que vous avez compris? Ils n'avaient pas besoin des règles, ils avaient déjà les règles en eux-mêmes. On sait qu'ils maîtrisaient la langue arabe, c'était leur langue. Est-ce que les mouchrikines, un exemple, est-ce que les mouchrikines à l'époque du prophète, il a fallu leur faire des cours de tawhid pour savoir ce que ça veut dire la ilaha illallah. Non. C'était leur langue. Lorsqu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, Idha qila lahum, qulu la ilaha illallah, yastakbirun. Ou alors, qalu aja'ala alihatan ilahan wahid. Et lorsqu'on leur demandait de témoigner de la ilaha illallah, ils répondaient, A-t-il rendu fait revenir les divinités à une seule divinité? Ceci est une affaire étonnante. Inna hadha la shay'un ujab. Ils n'ont pas pris de cours de tawhid. Nous, aujourd'hui, on a eu besoin, depuis des lustres et des lustres et des lustres, on a fait des livres, des ouvrages. Ils ont demandé à l'époque de Cheikh al-Islam, fais-nous un livre sur la croyance des gens de la Sunna. Les compagnons, ils avaient tout ça. Le frère, il nous l'a dit en deux mots. Allah ibarak, mashallah, il nous l'a dit en deux mots. Il nous a dit, le frère Mbae, il nous a dit, il a dit en deux mots, il s'appuyait sur le Kitab wa Sunna. Tamam? Donc, oui, puisque c'est eux que nous suivons, au sens figuré, ils sont les auteurs des livres d'aujourd'hui. Tout à fait, subhanallah. La source, c'est eux. Après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la source, c'est eux. Le prophète lui-même demande de revenir à eux. Demande de revenir aux compagnons. Donc, tout à fait. La croyance des gens de la Sunna, c'est qui les gens de la Sunna? Lorsqu'un savant il fait un ouvrage, et ben c'est les compagnons, c'est la croyance des compagnons, du prophète et de ses compagnons. Donc eux, ils n'avaient pas besoin. Mais comme après les justement le niveau après les compagnons et les tabi'in, il a commencé à être très faible, il a commencé à avoir de l'altération. Donc ça, c'est les savants qui le disent, on en a parlé. Et si on n'en a pas parlé, on en parlera. Je sais que c'est dans les cours. Moi, je me souviens de mes cours. Et je sais qu'on va en parler du fait que, concernant la langue arabe, arrivé à un moment, quand le Coran il a commencé à être propagé dans les contrées, les autres pays musulmans, il y avait des pays qui sont devenus musulmans, mais qui n'étaient pas d'origine arabe. Et ben, la langue arabe, elle a commencé à être altérée, mélangée avec des langues qui sont pas arabes. Beaucoup de choses comme ça. Et c'est à ce moment-là, la religion, elle a commencé, la langue arabe a commencé à être altérée, la croyance a commencé à être altérée. Et c'est à ce moment-là que les compagnons ont décidé de, pas les compagnons, pardon, ceux qui les ont suivis, nous, on a eu besoin d'ouvrages pour pas que ça se perde. Il fallut faire des livres pour expliquer tout à fait. Barakallahu fikoum. Les sectes se sont créées tout à fait. Tout à fait. Donc il a fallu compiler et retranscrire tout ça. On a dit dans le cours précédent que même à un moment, il y a eu des guerres contre les ennemis d'islam. Et il y a tellement de huffaz, de gens qui portaient le Coran, on parle dans les poitrines, hein, qui portaient le Coran, qui sont morts, qui sont morts à la guerre, etc., que les compagnons et les tabi'in, ceux qui sont venus, ils ont commencé à avoir peur, que le Coran, il commence à partir. Ils l'ont compilé, ils l'ont envoyé partout. Ils ont réuni le Coran, naham. Ils ont réuni le Coran. Donc vous voyez, nous, à notre époque, on est tellement faible, scientifiquement, etc. Il faut que vous sachiez que les compagnons étaient des grands, grands, grands savants. Des grands savants. Les compagnons, ils n'avaient pas besoin du tafsir Ibn Kathir. C'est eux le tafsir. Les compagnons n'avaient pas besoin de. Eux, ils avaient le Kitab wa Sunna. Ils étaient directement témoins de la source et ils l'ont compris à la source. Tout simplement. Nous, on a besoin de quoi? On a besoin d'intermédiaires. On a besoin d'intermédiaires. Nos intermédiaires, nous, c'est les ulama. On a besoin d'intermédiaires. Et ceux qui se sont passés des véritables intermédiaires, ils se sont égarés. Et il continue à s'égarer, comme vous pouvez le constater. Donc, Inch'Allah Ta'ala, Inch'Allah Ta'ala, comme on vous l'a dit, Naham, comme nous vous l'avons mentionné, le cours prochain, On commencera, Inch'Allah, à 19h, heure de France. Lorsque je devrais arrêter pour la salat, je prendrai quelques minutes pour faire la salat, Inch'Allah ta'ala, mais vous, au moins, on n'aura pas perdu tout ce temps, hein, concernant les cours. Donc, si vous avez des questions concernant le firqa, vous pouvez, Inch'Allah ta'ala, poser. Un frère nous demande, et les Quraysh d'aujourd'hui en Arabie Saoudite, est-ce qu'ils ont le même niveau d'arabe que les compagnons? Non, ils n'ont pas le même niveau d'arabe. On peut dire que le niveau, il est pas des moindres, hein. Le niveau aujourd'hui en arabe, il n'est pas des moindres. Mais sachez qu'à l'époque, comme nous l'a mentionné un frère ici, Allah Ibarak, il y avait des poètes, il y avait d'ailleurs, si vous, lorsqu'on prend les textes des anciens, même quand on regarde carrément la parole du prophète à l'état pur, en arabe, on constate que c'est un arabe très fort. C'est un arabe très fort. Même des fois, on va pas comprendre. On va même pas comprendre. C'est un autre arabe. Et quand on le compare à l'arabe d'aujourd'hui, que les ulama, ils ont pris un arabe très 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 simplifié pour que tout le monde puisse comprendre aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a un arabe, on a dans la langue, on est devenu faible. On est devenu faible. Donc les ulama, ils parlent d'une manière très simple, au niveau de la communauté. Que même les awam peuvent comprendre. Et que même ceux qui ont Darija, ils peuvent comprendre. Mais si on parlait la langue du prophète, la langue des compagnons de l'époque, je peux vous dire, Allahu a'lam, hein, de ce que moi je connais, hein, j'ai mis mon nez dedans et je peux vous dire que le niveau, il est vachement plus élevé. Hein. Le niveau est très, 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 très élevé. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Pour répondre à la réponse du frère. On peut dire que toutes les sciences religieuses que nous étudions aujourd'hui, c'était inné chez les compagnons, les tabi'in et les tabi'i-tabi'in, et c'est qu'après que le niveau a diminué. Je ne me souviens pas exactement à quel moment exact, faudrait que je vérifie, Akhi Hakim. Barakallah, à quel moment exactement ça a commencé à changer, mais c'est à peu près vers après les compagnons. Après les compagnons, mais il faudrait que je vérifie. Je ne peux pas établir est-ce que c'est après les tabiri ou tabiri-tabirine. Mais déjà dans la langue arabe, à l'époque des quatre califes, à l'époque de Ali, déjà il y avait le nahou, il a commencé à se mettre en place, pour vous dire. Donc au niveau de la langue arabe, le nahou, il a commencé à se mettre en place à l'époque de Ali. Ce n'est pas Ali, mais c'est une autre personne. J'ai oublié son nom, Wallahul Musta'an. Hein. Ibn al-Aswad, je crois, Ibn al-Aswad, quelque chose comme ça. Naham, exact, exact. La langue arabe est un des miracles. Naham. Je crois que c'est Ibn al-Aswad, j'ai oublié son prénom, c'est lui qui a lancé le Nahou. Il y a des divergences, il y en a qui disent que c'est Ali, etc. Mais Ali, il en a parlé, mais c'est une autre personne, Naham. Al-Muhim. Pour vous dire que oui, chez les compagnons, les sciences religieuses, elles étaient, ils avaient, ils a, comment dire, c'était compact chez eux, c'était imprégné. Ils se sont imprégnés du Coran et de la Sunna, donc ils connaissaient les sciences religieuses, mais pas comme nous on les connaît aujourd'hui. Voilà, ça c'est une faïda qui est assez très importante pour vous de connaître. طيب، donc demain, inshallah ta'ala, on vous donnera la amin, amin, akhi Hakim, amin, ajma'in, ya ayyuha al-ikhwa. Demain, inshallah ta'ala, on vous donnera la correction du contrôle. C'est très très satisfaisant pour tout le monde. Voilà, pour que vous sachiez. Tous ceux qui ont fait le contrôle, c'est satisfaisant. Pour certains, c'est parfait. Pour d'autres, c'est très 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 bien. Pour d'autres, c'est bien. Pour d'autres, c'est encourageant. Mais en règle générale, je suis satisfait. Je suis, par la grâce d'Allah, satisfait. On ressent que les cours sont compris et que les élèves sont bien à l'écoute. Et ça, c'est très important. C'est très important. Alors, Inch'Allah Ta'ala, que ça continue. Inch'Allah Ta'ala, que cela continue. Wa subhanak Allahumma wa bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Pour ceux qui vont avoir le cours de Aqida à la suite, je laisse la Zoom ouverte, comme ça on va pas tout refaire fermer, faire entrer tout le monde. Normalement, ça ne devrait pas causer de problème, je l'espère. Parce que le frère a eu un problème internet, il ne sera pas là jusqu'à mardi, inshallah ta'ala. Le frère a un problème avec internet et il ne sera pas là. Le frère qui s'occupe, le frère Tayeb, hein, c'est lui qui s'occupe habituellement. Donc il est absent. Et c'est moi qui ouvre, qui fais entrer les gens, etc. Donc là, je laisse ouvert. Ceux qui sont qui ont leur cours peuvent rester. Naam. Qui ont le cours de Aqida. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.